Voici la section de Bourges et Duchère de la Ligue des droits de l'homme.
La LDH vous propose une émission sur le thème la Palestine, Israël, ou Israël et la Palestine. Bon, vous comprendrez combien ce sujet est d'actualité et brûlant. Et nous avons, au fur et à mesure du développement de notre conversation, nous exprimerons non seulement la complexité du débat, mais la position de la LDH par rapport à la situation. On n'a pas l'intention de passer beaucoup de temps sur l'historique, mais juste quelques éléments. La notion d'État juif est quelque chose qui apparaît à la fin du XIXe siècle, qui a été repris en 1917 par Balfour, un Anglais, qui voulait s'assurer de l'appui des Juifs et qui leur a promis de créer une nation juive. Bon, cette idée, les Anglais l'ont concrétisée, l'ont concrétisée avant la Seconde Guerre mondiale, où des Juifs sont venus s'installer en Palestine. Alors, la deuxième grande étape, c'est en 1947, l'ONU crée.
C'est la résolution 181 qui partage en fait 1947 la Palestine en un État juif. Il devait y avoir 56% du territoire et un État arabe, 44% du territoire, et une zone de tutelle internationale sur Jérusalem et Bethléem. Les Juifs acceptent et les Palestiniens évidemment, refuse. Et ça débouche en 1948 sur une première guerre animée par Ben Gourion.
Oui, alors j'insiste sur le fait que c'est à ce moment-là qu'a été créée l'idée de deux États. Alors cette création, disons que cette résolution de l'ONU, qu'accepte sans problème, c'est important, les Juifs, c'est la seule qu'ils aient acceptée. Après, avec la complexification du problème, les violences, les guerres, il y a eu de multiples déclarations, de résolutions de l'ONU, dont aucune n'a été appliquée. Mmh. Mais sans réaction internationale. Sans réaction internationale. Voilà.
Mais même après 1947 et cette création par l'ONU de cette perspective de deux États, dès 1948, le gouvernement Ben-Gourion, qui avait accepté, mais quand même, ce qu'on avait appelé le plan d'Alet, d'épuration ethnique, la moitié de l'expulsion des Arabes se produit avant la première guerre israélo-palestinienne. C'est même ça qui la déclenche. Et au total, en 1948, il y a 400 villages arabes qui sont détruits, qui entraînent l'exode de 800 000 Palestiniens et Palestiniennes. C'est ce qu'on a appelé la catastrophe, la Nakba. Et dès le 11 décembre 1948, l'ONU vote la résolution 194 qui décide qu'il y a lieu de permettre aux réfugiés qui le désirent de rentrer dans leur foyer le plus tôt possible. Et comme tu le disais, après 1947, il n'y a plus eu une seule résolution de l'Organisation des Nations Unies qui ait été respectée par Israël.
Ça, c'est une donnée fondamentale qui permet de comprendre la situation actuelle. Cette création de l'État d'Israël, ayant, comme Michel l'a expliqué, provoqué une réaction, a permis déjà à Israël de s'emparer de l'ouest de Jérusalem, ce qui n'était pas prévu.
Oui, et il me paraît intéressant de rappeler que la deuxième grande guerre israélo-arabe, celle de 1967, qui voit Israël finalement occuper Jérusalem-Est, la Cisjordanie et Gaza, et le Golan syrien, d'ailleurs, en prenant le Golan, c'est la maîtrise de l'eau, par Israël. En 1967, l'Organisation des Nations Unies a demandé à ce que Israël, reste dans les frontières qui laissaient la Cisjordanie, qui laissaient Gaza et qui laissaient Jérusalem-Est pour les populations palestiniennes. Cela n'a pas été respecté. Et il me semble pas inintéressant de rappeler que en 1973, la résolution 3379, c'est très précis, de l'Assemblée générale de l'ONU, assimile le sionisme à une forme de racisme et de discrimination raciale. Cette résolution est une reconnaissance du droit des Palestiniens. Israël ne l'a jamais respectée.
Alors, moi, je précise aussi que la suite de l'installation, la création de l'État d'Israël, bon, les tensions se multiplient et débouchent sur plusieurs guerres. Alors on ne va pas les analyser toutes, hein, mais elles ont toutes un point commun. Chaque fois, Israël récupère un territoire.
Grignote.
Oh, oui. Grignote beaucoup même.
Oui, grignote beaucoup, installe des murs, et repousse toujours. On voit des colons israéliens qui arrivent, souvent des intégristes juifs, qui arrivent avec une citerne d'eau, qui installent une caravane sur un terrain en disant « ici c'est chez nous ». Et puis peu à peu, au fil du temps, autour se construisent des maisons, etc. Et c'est devenu une véritable... c'est une peau de léopard maintenant, les territoires palestiniens. En fait, Israël... Depuis la guerre des six jours de 1967, au-delà de toutes les résolutions qui ont été votées par l'Organisation des Nations Unies, Israël ne les a jamais respectées. Et la véritable impasse dans laquelle on se retrouve, c'est que la colonisation, elle continue en totale impunité.
Alors, les Palestiniens, en réaction, ont créé l'État de Palestine. Enfin, ont décidé de créer l'État de Palestine et de faire de Jérusalem sa capitale. Bon. 136 États reconnaissent progressivement la Palestine. Donc la Palestine est une réalité. Hein. Enfin, juridique, mais hein, sur le plan concret, hein, on n'est pas arrivé à une solution de paix qui créerait deux États. Il y a eu des tentatives dont la plus célèbre est les accords d'Oslo, hein, mais ces accords d'Oslo avaient laissé de côté des points importants, hein, dont Jérusalem, parce que c'était trop compliqué. Alors, on va s'arrêter sur l'aspect historique. Hein. Je pense qu'il est souhaitable...
On peut peut-être quand même rappeler que le 26 mars 2010, l'ONU a voté une résolution sur le droit du peuple palestinien, oui, à l'autodétermination, que en novembre 2012, la Palestine a été admise à l'ONU en tant qu'État non membre de l'organisation.
Ah oui, ça.
On peut rappeler qu'en 2016, la résolution 2334, en rompant d'ailleurs un silence de 8 ans, le Conseil de sécurité adopte une résolution exigeant l'arrêt des activités israéliennes de peuplement dans le territoire palestinien occupé, chose qui évidemment n'a pas été respectée. C'est en décembre 2019, l'ONU vote une résolution sur la souveraineté permanente du peuple palestinien dans le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et de la population arabe dans le Golan syrien occupée sur leurs ressources naturelles. On parlait à l'instant de l'eau. Mais on peut rappeler, pour finir, ce qui a donné un énorme élan aux intégristes juifs, à la droite extrême d'Israël et au gouvernement Netanyahou, qui vient d'être remplacé, mais peut-être par plus à droite que lui, c'est le travail de sape et de destruction fait par la diplomatie américaine à l'époque de Donald Trump quand il a reconnu Jérusalem-Est comme capitale.
Et ça, je pense qu'on sera amené à faire le point sur cet aspect-là. Il me semble qu'il est bon maintenant d'analyser ce qui s'est passé en mai, qu'on appelle maintenant la quatrième guerre de Gaza, qui exprime la complexité de la situation, mais qui en même temps fait apparaître un certain nombre de situations, enfin disons, de situations nouvelles. Alors, je vais commencer par noter, mettre en avant comment s'est diffusé et interconnecté le conflit. Ce qui frappe par rapport aux situations antérieures, c'est la diversité des lieux d'affrontement, mais aussi leur interconnexion. Jérusalem a fait une mobilisation victorieuse grâce à sa jeunesse qui ont défendu les lieux publics. Alors, il y a un double intérêt dans cette présence de Jérusalem. Jusqu'à présent, Jérusalem n'intervenait pas. Et ce qui est aussi nouveau, c'est la jeunesse qui a pris la situation et qui a géré de façon intelligente le conflit. Alors, la deuxième situation nouvelle, c'est que les villes mixtes d'Israël, c'est-à-dire les villes qui ont une double communauté juive et palestinienne, ont manifesté et en soutien des Palestiniens de Jérusalem. Et ces manifestations tournent à l'affrontement avec l'extrême droite israélienne, avec des scènes de lynchage d'une violence insoutenable. Je crois qu'aussi il faut noter la montée de la violence et de l'horreur qui s'est exprimée pendant ces journées. Et puis, ce qui est, disons, à noter, alors que le mouvement s'était exprimé en Israël, le Hamas intervient et il déclenche une nouvelle guerre, s'appuyant sur, ma foi, les manifestations et l'attitude des Palestiniens d'Israël. Alors, deuxième originalité par rapport au conflit précédent, le retour de Jérusalem au cœur de la société civile palestinienne. Oh, je ne sais pas s'il faut développer.
Non, mais ce qu'on peut dire, c'est qu'on est arrivé dans une situation où le mouvement islamiste palestinien, le Hamas, qui a pris du poil de la bête par rapport à l'autorité palestinienne, le Hamas, qui est accusé dans les pays occidentaux d'envoyer les roquettes sur Israël, et c'est vrai que cela est condamnable, mais il ne faudrait pas faire comme les dirigeants occidentaux qui ne disent que ça. En réalité, je crois que le mouvement Hamas est le mouvement d'extrême droite, les mouvements d'extrême droite israéliens se répondent et se nourrissent l'un l'autre. Mais ce qui a déclenché la situation récente au mois de mai dernier, c'est quand même le lynchage d'une personne arabe la provocation d'un député d'extrême droite israélien dans le quartier Sheikh Jarrah à Jérusalem-Est, avec des manifestations dont on a très peu parlé, on a peu entendu dire, on a accusé le Hamas, mais on a oublié de dire dans nos radios, je vais très vite en disant ça, mais on a oublié de dire qu'on entendait dans les manifestations de l'extrême droite israélienne à Jérusalem, on entendait le cri de mort aux Arabes.
Oui.
Moi, je dirais que quand on dit mort aux Juifs, mort aux Allemands, mort aux Français, mort aux Arabes, c'est absolument insupportable dans tous les cas. Et c'est ces violences qui ont secoué le pays pendant une semaine. Et puis les expulsions, la colonisation qui continue, mais aussi les expulsions dans ce quartier de Jérusalem-Est, près d'un millier de Palestiniens sont en situation ou au bord de l'expulsion par les autorités arabes. Et ça, c'est totalement contraire au droit international, le droit international humanitaire.
Puis ça va plus loin, parce que... cette possibilité d'expulsion des Palestiniens de leur maison dans la partie est de Jérusalem allait être, appuyée par une décision juridique,
oui,
qui avait un effet rétroactif, donnant aux Juifs la possibilité de reprendre des maisons, mais cette mesure n'était pas applicable aux Palestiniens. Ce qui fait que on allait aboutir, si cette mesure était passée, à une discrimination évidente, contraire à l'égalité entre les populations.
Alors, l'Organisation des Nations Unies a émis un certain nombre d'avis, une fois de plus, qui ne sont pas respectés par le gouvernement israélien. Et quand on parle du gouvernement israélien, c'est pas la population de l'État d'Israël et c'est pas les Juifs qui sont accusés, c'est bien le gouvernement israélien. Et je crois qu'il faut le rappeler, le Haut Comité aux droits de l'homme de l'Organisation des Nations Unies rappelle qu'une puissance occupante, c'est-à-dire Israël, ne peut confisquer la propriété privée en territoire occupé. Donc Israël est vue par l'Organisation des Nations Unies pour ce qu'elle est, c'est-à-dire une puissance occupante qui devrait, mais ne le fait pas, respecter le droit de la propriété privée en territoire occupé. Et en fait, c'est les expulsions qui ont eu lieu, notamment à Jérusalem-Est, ça traduit la volonté du gouvernement israélien d'imposer les lois israéliennes sur les territoires occupés. Et les transferts forcés de population auxquels ça conduit, c'est une violation, l'ONU le rappelle, c'est une violation de la 4e Convention de Genève.
Je pense aussi qu'il faudrait être conscient que Israël a fait le blocus de Gaza. C'est-à-dire que, c'est une situation qui progressivement affame la population de Gaza. Et récemment, il y a plusieurs organismes des droits de l'homme qui ont parlé de situation,
D'apartheid.
D'apartheid, voilà.
C'est une situation d'apartheid et moi, je pourrais l'illustrer sur la base de la réflexion que j'ai entendue d'une migrante française, d'une famille française qui est partie s'installer en Palestine, qui n'a pas choisi le territoire israélien tel qu'il avait été fixé par la résolution de l'ONU de 1967, mais qui est partie s'installer dans les colonies de Cisjordanie. Et à un journaliste français qui enquêtait sur le terrain, qui lui posait la question « Mais pourquoi vous êtes venu là ?» Elle a répondu « Parce qu'on est chez nous. » Et le journaliste lui a dit « Oui, mais les Palestiniens. » Elle a répondu « Qui ?» C'est-à-dire qu'elle voulait démontrer que pour elle, les Palestiniens n'existent pas. La négation de l'existence des Palestiniens. En Cisjordanie, les intégristes juifs, c'est chez nous, ils sont chez eux. Donc les Palestiniens n'existent pas. Eh bien c'est ça, l'apartheid. C'est ça, l'épuration ethnique.
Je pense que là, on est submergé par tout un tas d'informations, mais je voudrais faire prendre conscience qu'on peut évoquer trois types principaux de régions. Il y a l'État d'Israël, il y a Gaza, asphyxié.
Prison à ciel ouvert.
Asphyxié, prison à ciel ouvert, et la Cisjordanie. Il y a trois zones où, là, en Cisjordanie, les Palestiniens se trouvent progressivement éjectés de chez eux par la colonisation fortement encouragée par le gouvernement d'Israël.
Absolument.
Peut-être qu'on pourrait envisager, maintenant qu'on a peut-être pas éclairci, mais essayer de donner quelques clés de compréhension de la situation, poser la question, et maintenant ? Et maintenant ? Alors, pour comprendre un peu si on peut avoir l'espoir d'une solution, bien, on peut commencer par le contexte international. Et ce contexte international ne nous rend pas particulièrement optimistes. Dans la mesure où, à chaque situation de violence, disons d'irrégularité, de la part de l'État d'Israël, les chancelleries occidentales font des déclarations systématiques du genre « il faut un retour au calme, il faut faire on fait un appel au dialogue », mais précisément, concrètement, ça ne va pas plus loin.
Ça ne va pas plus loin parce que Israël a toujours été la tête de pont, si l'on peut dire, du monde occidental. Alors, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, monde occidental, parce que la Terre est ronde. Mais disons, des États-Unis au Proche-Orient, pour des raisons, des intérêts géopolitiques, des intérêts géostratégiques et économiques. Et les gouvernements, tu me corriges si tu penses que je dis des bêtises, les gouvernements, il me semble que les gouvernements des pays occidentaux ont toujours tendance à ne pas aller jusqu'au bout de la description de cette réalité de la colonisation et de cette montée, de cette extrême droite israélienne et de ces intégristes juifs qui, d'ailleurs, entre parenthèses, veulent... Il y a des intégristes juifs qui avaient le projet de mettre les femmes au fond des bus et puis les hommes devant. Enfin, bon, on retrouve toutes les caractéristiques du racisme, voilà, et du sexisme. C'est l'extrême droite israélienne. Et si les gouvernements occidentaux ont une très grande prudence, c'est que ils veulent laisser traîner, comme s'ils voulaient laisser traîner dans l'opinion publique l'idée qu'accuser les gouvernements israéliens d'avoir, de conduire les politiques qu'ils conduisent, c'est faire de l'antisémitisme. Mais je crois qu'il faut affirmer avec beaucoup de force que lorsqu'un juif est attaqué parce qu'il est juif, il faut se sentir juif et le défendre. En revanche, la politique conduite par l'État et le gouvernement d'Israël peut être critiquée. Et ça, c'est pas de l'antisémitisme. Ça peut même être utile à la population israélienne dans son ensemble.
En conclusion, peut-on compter sur le monde occidental ? Quand on réalise qu'il y a un énorme fossé entre la réalité terrifiante sur le terrain et les déclarations diplomatiques. Alors, côté ONU, le Conseil de sécurité a illustré l'impuissance internationale depuis 1948. La raison c'est le blocage américain. Il y a, comme on l'a évoqué, hein, il y a une attitude de soutien d'Israël par les États-Unis. Le point culminant, évidemment, étant ce qui se passait avec Donald Trump, qui a déplacé son ambassade à Jérusalem. Mais ces jours-ci, on peut avoir, sur le plan américain, une petite lueur d'espoir. Une petite. Dans la mesure où l'ambassadeur américain nommé par Joe Biden, c'est quelqu'un de plus modéré que celui qu'il remplace et qui évoque l'idée de deux États. Alors, raccrochons-nous aux espoirs.
L'espoir, mais bon, je voudrais dire, je crois pour le temps passe vite, je crois qu'on essayera tout à l'heure de dire quelles sont les propositions soutenues par la Ligue des droits de l'homme, mais tu citais à l'instant Donald Trump, je crois qu'il faut quand même regarder un peu aussi chez nous.
Ah oui, pour ça.
J'ai là une liste d'une très grande quantité de signataires, parmi lesquels deux présidents d'honneur de la Ligue des droits de l'homme, Michel Tubiana, qui est avocat, et Pierre Tartakovsky, qui a été aussi président de la Ligue des droits de l'homme, qui est journaliste, qui sont intervenus en disant « Messieurs Macron et Darmanin, cessez de jouer les pompiers pyromanes ». Et ces Juifs de France ont signé ce texte où ils disent qu'ils regrettent que le 15 mai dernier, la manifestation prévue à Paris en soutien au peuple palestinien a été interdite sur l'ordre de Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur. Ils disent que cette interdiction visait, d'après Emmanuel Macron et Gérald Darmanin, à empêcher toute éventuelle expression d'antisémitisme. Et on revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Critiquer le gouvernement israélien, c'est pas critiquer les Juifs. Et ils disent « Ça suffit de voir Gérald Darmanin jouer les remparts contre l'antisémitisme et le racisme, lui qui s'indigne de la présence de produits alimentaires cachers ou halal dans nos grandes surfaces. » Ça suffit de parler au nom des Juifs et des Juives de France. Ça suffit de vouloir interdire toute critique politique de la colonisation. Ça suffit de considérer le Conseil représentatif des institutions juives de France comme le représentant de l'opinion de toutes les Juives et de tous les Juifs de France. Nous nous élevons contre les utilisations de l'histoire de l'extermination des Juifs et Juifs d'Europe par des États et des criminels européens. La mémoire de la Shoah n'appartient pas plus aux Juifs et Juifs qui soutiennent inconditionnellement le gouvernement israélien qu'à nous qui les critiquons. Nous appelons toutes celles et ceux qui veulent une paix juste et durable entre Israéliens et Palestiniens à proclamer que cela passe par la résolution du droit du peuple palestinien à déterminer démocratiquement et librement son avenir.
Alors je reprendrai la parole parce que le temps passe pour qu'on ait, disons, un peu le temps de se poser la question. Comment sortir de l'impasse ? Alors, voilà les conditions que soutient la Ligue des droits de l'homme. Premièrement, lever l'embargo, alors qui est israélien mais aussi égyptien, hein, qui étrangle 2 millions d'habitants à Gaza. Et, comme on le soulignait, qui exprime une forme d'apartheid, hein, dans la mesure où le système de domination des Palestiniens, a été mis en place par les Israéliens. Gaza est une partie intégrante du corps palestinien. La fièvre ne pourra que s'apaiser que quand on envisagera un règlement d'ensemble du conflit avec Israël. Alors, deuxième condition, une remise en cause des colonisations israéliennes en Cisjordanie, qui n'est pas un territoire israélien. La solution, c'est deux États, un Israélien et un Palestinien. Et autre condition, changer de stratégie. Une nouvelle stratégie du règlement du conflit qui substitue aux négociations voué à l'échec par une approche fondée sur le respect des droits des deux peuples et la lutte contre l'impunité des deux côtés.
Tout à fait. Mais je crois que ce que tu dis là, ça correspond tout à fait à une déclaration commune qui a été signée le 26 mai dernier par la Ligue française des droits de l'homme et du citoyen et la Fédération internationale des droits de l'homme. On ne revient pas sur le descriptif de la situation sur le terrain, mais cette déclaration LDH et FIDH propose 5 mesures immédiates pour mettre fin aux sites de violence et d'impunité et protéger le peuple palestinien. Premièrement, demander aux États d'imposer un embargo sur la fourniture, la vente et le transfert direct ou indirect de toute arme et munitions aux parties belligérantes. Soutenir l'enquête en cours de la Cour pénale internationale sur les crimes internationaux commis en Palestine, y compris dans la bande de Gaza et en Cisjordanie. Demander l'établissement d'une enquête indépendante sur les violations du droit international humanitaire et des droits humains, que ce soit en Palestine, dans la bande de Gaza et en Cisjordanie, ou en Israël. Prendre des sanctions ciblées à l'encontre des responsables de violations de droits humains, d'infractions graves au droit international humanitaire. Bon, on parlait des expulsions. Et d'exhorter, cinquième mesure, exhorter Israël à respecter son obligation légale de lever le blocus de Gaza et à mettre un terme à ses lois et pratiques discriminatoires ainsi qu'à ses activités de colonisation en Cisjordanie occupée, y compris Jérusalem-Est. Et puis, il y a peut-être une dernière chose qu'on peut évoquer, c'est une prise de position de la Ligue des droits de l'homme et du citoyen française qui rappelle que l'Union européenne subventionne la recherche et l'industrie et de la sécurité pour aider de nombreuses firmes israéliennes. Et que c'est l'argent des contribuables français ici qui part pour cette industrie de la sécurité israélienne. Donc la LDH appelle l'Union européenne à limiter les programmes cadres de recherche et développement strictement à la sécurité civile et à la paix. Et non plus à l'armement de Tsahal ou voire des milices extrémistes juives.
Il faut bien que notre industrie ait un débouché quand même.
Deuxièmement, exclure sans délai des programmes cadres de recherche et développement européens toutes les entreprises militaires et de sécurité israéliennes. Et troisièmement, assurer la transparence et le contrôle démocratique sur les appels à projets annuels lancés dans le cadre des programmes de recherche européens. C'est une question de transparence et c'est aussi une question de démocratie. Les contribuables européens et les contribuables français doivent savoir précisément à quoi leur argent sert. Si on doit donner une conclusion, je la prendrai par un exemple. On a parlé beaucoup de la colonisation, on a parlé d'une situation, et la Fédération internationale des droits de l'homme utilise le mot « apartheid ». Israël-Palestine, c'est aussi l'apartheid, si on le regarde concrètement, c'est aussi l'apartheid de l'eau.
Ah oui.
Par exemple, on a 2 300 000 Palestiniens qui n'ont droit qu'à 70 millions de mètres cubes par an, contre 222 millions de mètres cubes pour les colons israéliens qui sont moins d'un demi-million en Cisjordanie. Là, on est en Cisjordanie, pas Gaza. Mais aussi que les citoyens israéliens ont une consommation quotidienne d'eau qui se situe entre 270 et 400 litres par jour, contre 50 et 70 pour les Palestiniens. Alors que l'Organisation mondiale de la santé, on a beaucoup parlé de santé par les temps qui courent, l'OMS estime à 100 litres par jour le minimum vital. Israël ne laisse pas, pour l'eau, ce minimum vital aux Palestiniens. Eh bien, c'est ça, l'apartheid. C'est ça, la colonisation. Oui. Eh bien, c'est ça qu'on ne veut pas.
Merci, Aline de la Perelle. Merci, Michel Picard. Alors, il se trouve que Radio Résonance avait réalisé, il y a quelques années, un atelier radio entre des classes du collège Jean Renoir, si je me souviens bien, et puis leurs homologues, peut-être un tout petit peu plus vieux, de la bande de Gaza. C'était une opération qui avait été réalisée grâce à Medina, qui a des envoyés sur place. Eh bien, voici un jeune Palestinien qui chante en s'accompagnant au oud. Voilà, c'est bien de parler des Palestiniens, c'est encore mieux de les entendre.